lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est les lundis avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, ça va bien?
Ah, que je suis excité. Oui, ça va bien. Je suis excité. Le Parti québécois, lorsqu'il sera au pouvoir, nous ramènera un Québec souverain. J'en suis persuadé, Maître Bellemare, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, le fils de Jésus, l'a promis. D'ici 2030, il y aura le troisième référendum sur la séparation du Québec de l'intérieur du Canada. Et les gens voteront en majorité oui, Monsieur Bellemare.
Ouais, c'est difficile de savoir, hein, mais on dit qu'il y a 36 % de souverainistes au Québec. Je sais pas. Hein. Moi, je me souviens du référendum de 95. As-tu voté, toi, en 95, sûrement?
J'ai voté, oui. J'avais voté non à ce moment-là.
Tu étais bien jeune?
Oui, quand même.
Alors, moi, j'ai fait 80 puis 95. Et à l'époque, écoute, je me souviens que... C'est Parizeau qui était président du comité du oui. Et quand la campagne référendaire avait été lancée, je pense en 1995, il y avait Parizeau qui était, je pense, président du comité du oui. Puis il y avait, à un moment donné, il a désigné Lucien Bouchard comme son successeur. Pas son successeur, mais son négociateur en chef. En disant, si vous votez oui, c'est Lucien Bouchard qui va négocier tout ça. Lucien Bouchard avait une crédibilité énorme à l'époque. Et il y avait un comité qui avait été fait avec Mario Dumont de la DQ, Parizeau pour le PQ, puis Bouchard pour le Bloc. Et il y avait, écoute, ça a monté, là. Au début, c'était à peu près 40 %. Mais quand Bouchard est arrivé, là, il avait tellement de crédibilité, ça a monté de 7-8 points d'un coup. Ça a fini à 49,5. Fait que probablement que Paul Saint-Pierre Plamondon fait le même pari actuellement en se disant, ben là, si on commence à en parler, si on est élu, qu'on fait un référendum, il y a des gens qui vont se joindre à moi et qui vont favoriser l'émergence d'un oui. Alors, des fois, ça peut changer à la baisse comme à la hausse, ça dépend de quel genre de campagne ils font, mais il y a un constat sur lequel je suis assez d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, par contre, c'est sur le fait que le Québec est de moins en moins important dans le régime fédéral canadien. Moi, j'ai vécu ça, là, écoute, j'ai 67 ans, et depuis 50 ans, j'ai vu ça diminuer, le poids du Québec. On est moins nombreux au Québec. On diminue considérablement en termes de proportion.
On est moins nombreux, je suis d'accord avec vous, mais on n'est plus producteur de richesse. Là. On attend que l'Ouest canadien puisse produire de la richesse pour ensuite nous bénéficier de la fameuse péréquation puis avoir un beau gros panier de services. Mais on est plus des demandeurs que des donneurs. Puis à partir du moment où tu vas avoir un poids qui est raisonnable avec le Canada, ben il faut au moins contribuer là, à la hauteur de la population du Québec. On est à peu près le quart du Canada, puis on reçoit des milliards et des milliards et des milliards en péréquation. On est demandeur, puis on dit, ah ben vous, dans l'Ouest canadien, vous avez du pétrole sale, tandis que nous, ben, on a des éoliennes, et le pétrole qui est dans nos terres, ben nous ne l'exploiterons jamais, tu sais, quitte à crever de faim, nous ne l'exploiterons jamais. Tu sais, si on veut plus de place au Canada, à un moment donné, il va falloir de un, la prendre notre place, mais de deux, montrer au Canada qu'on veut contribuer en tant que Canadien et non pas toujours faire les affaires de notre bord puis toujours tirer la couverte de notre bord. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, sauf qu'il est extrêmement mal conseillé. Dans les dernières années, on l'a entendu parler avec Mario Dumont en 2022, où il était persuadé, lui, dans sa tête, que c'était possible de convaincre les pétrolières de nous vendre l'essence à 1,60 $ pour que nous, on puisse fixer le prix du litre de pétrole 1,60 $. Mario Dumont, qui est économiste de formation, lui a dit « En ondes, à LCN? » Mais là, vous pensez faire ça comment? Si le prix de l'essence est à 1,75 $, pourrait pas convaincre les pétrolières de vous le vendre en dessous de 1,60 $? Je veux dire, c'est un principe de base de l'économie. Les pétrolières vont vous dire « Ben, garde, tu le veux pas à 1,60 $, tu le veux pas à 1,70 $, c'est le prix c'est le prix que ça vaut, donc on te le vendra pas, tu sais. Et Paul Saint-Pierre Plamondon regardait Mario Dumont comme un orignal qui est sur le point de se faire frapper par un tank sur l'autoroute, tu sais. Qu'est-ce que je viens de dire là? Il est très, très mal conseillé. Il veut Paradis, qui vient d'être élu dans sa circonscription, dans Jean Talon, dit « Ah, ben là, nous, on ferme totalement le troisième lien. Ce qu'on veut pour un troisième lien à Québec, ce sera un troisième lien qui aura uniquement du transport en commun. » Ces gens-là vont devoir s'apercevoir, Maître Bellemare, qu'ils travaillent pour nous et non l'inverse. Là. C'est pas nous qui travaillons pour eux. Si une majorité de gens veulent un troisième lien, si une minorité de personnes veulent un tramway, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait le même poids chez nos politiciens. Et actuellement, nos politiciens sont hautains, sont prétentieux, considèrent qu'ils n'ont pas besoin de nous autres, puis qu'ils vont essayer de nous en passer une petite vite avec la souveraineté du Québec d'ici 2030. J'ai des nouvelles pour eux autres, tu sais. Les gens ne sont pas des attardés mentaux, puis ils vont devoir être convaincus avec des gens qui s'y connaissent au niveau de l'économie. Puis risqueriez-vous votre fonds de pension là-dedans, Maître Bellemare, parce que ça va être un dollar québécois, ce ne sera plus un dollar canadien. Là. Une fois qu'il y aura séparation, Paul Saint-Pierre Plamondon veut un dollar québécois. Est-ce que vous risqueriez le bas de laine des Québécois à mettre ça sur le dollar québécois plutôt que le dollar canadien?
Mais sais-tu ce qui est le principal argument pour le Parti québécois? C'est l'attitude de Trudeau. Puis c'est la même chose, tu remarqueras, Trudeau père dans les années 70, avait été, lui, ce qu'il voulait, c'est un pays qui est tout pareil, avec pas vraiment de différence aux provinces, comme le Québec particulièrement, parce que, tu sais, je suis pas sûr, moi, que les néo-écossais veulent être si différents que ça des gens de l'île du Prince-Édouard, mais le Québec, il y a quand même une particularité ici, c'est la culture, l'histoire et la langue. Mais Trudeau, très arrogant, et... quand tu revois Legault qui se fait virer comme une crêpe à chaque fois qu'il demande quelque chose, que ce soit en immigration, que ce soit dans les transferts en santé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pouvoir. Alors, il se fait rentrer dedans à tour de bras. Trudeau nomme une gouverneure générale unilingue anglophone. Trudeau décide de nommer une commissaire à l'islamophobie pour essayer de convaincre le reste du Canada que le Québec est islamophobe. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gifles à la face des Québécois de la part de Trudeau. Les champs de compétences, il s'en fout complètement. Il intervient carrément dans tous les, même des garderies. Et les Québécois se disent, à un moment donné, si Legault n'est pas capable de bouger, on va voter pour le PQ. Parce que tu remarqueras que le fédéral a toujours eu peur du PQ. Il n'a jamais eu peur des autres partis. Il n'a jamais eu peur de Charest, puis il n'a jamais eu peur de Legault. On le voit maintenant avec l'expérience. Puis on sent que Legault est comme au plafond, là. Il n'est plus capable d'avancer. Là. Il se fait dire non. Il s'en va à Ottawa pour demander des nouveaux pouvoirs en immigration. Il se fait dire non, puis il retourne chez eux, puis c'est fini. Alors, il y a un certain nombre de personnes au Québec, et je pense que c'est plus que 36 % qui sont un peu écœurés de voir l'arrogance de Trudeau. C'est sûr que ça se manifeste au fédéral par des votes un peu plus nombreux au Bloc québécois et au Parti conservateur. Mais au Québec, là, si tu veux, toi, que le Québec soit plus fort puis plus affirmé, que tu votes pour qui, là? T'sais? C'est pour ça que même si la souveraineté, selon les sondages, atteint un chiffre qui est à peu près invariable de 36 %, il reste qu'il y a pas mal de monde qui sont prêts à voter pour le PQ. Pas nécessairement pour la souveraineté, mais voter pour le PQ comme parti politique, un peu comme en 76, quand René Lévesque a été élu. C'est pas tous des souverainistes qui ont voté pour Lévesque. Ils voulaient avoir un bon gouvernement provincial affirmé, qui était capable de dire au fédéral, on veut des choses, qu'on va les obtenir. Puis d'ailleurs, les premières ententes qui avaient été signées sur l'immigration au Québec, c'était l'entente Couture-Collin en 1977 ou en 1978. Et le ministre de l'Immigration, c'était Couture, là, le curé de Saint-Henri, il était député de Saint-Henri, lui. Il avait réussi à obtenir une première entente sur l'immigration avec le gouvernement fédéral. Et ben c'est ça. Alors, les Québécois sont là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que Legault fait bien pitié quand il revient d'Ottawa. Il n'y a jamais rien. Rien pantoute. Depuis la dernière élection,
Mais
il
il
n'y
n'a
a rien
aucun
obtenu.
pouvoir de négociation, Maître Bellemare. Il n'a
Non, je le
aucun
sais.
pouvoir de négociation. Puis de là à dire que nous, ce qu'on veut au Québec, c'est une immigration qui est strictement unilingue francophone, c'est un peu courir à notre perte parce qu'il y a des Chinois qui veulent venir ici, qui veulent venir investir de l'argent. Il y a des Américains qui veulent venir ici investir de l'argent. Tu sais, la famille Nguyen, la grande famille Nguyen, n'aurait jamais pu grandir au Québec si François Legault avait été au pouvoir, là. Même chose pour ce qui est
Non.
du, même chose pour ce qui est de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que un immigrant qui ne parle pas français ou qui réussit pas son test de français ne serait pas reçu. Je veux dire, on a besoin d'une certaine ouverture. Ben oui, l'immigration francophone, elle est importante, mais on a besoin d'avoir une immigration d'affaires aussi. On a besoin d'avoir des gens d'un peu partout qui vont amener leur culture avec eux. Puis la deuxième génération va certainement parler français. Puis la troisième génération va certainement parler français. Mais ne choisir uniquement que des Français, c'est de courir à notre perte, là.
Oui, mais tu sais que Montréal s'anglicise à vue d'œil. C'est sûr qu'il y a une problématique de ce côté-là. Les immigrants sont presque tous à Montréal. L'anglicisation, c'est relié en partie à ça, mais moi, ça m'inquiète. Je vais te dire, là, je vais à Montréal je sens, là, puis c'est assez perceptible, même à l'est d'Atwater, là, même en dehors, dans le côté est de Montréal. Même Pointe-aux-Trembles, Rosemont, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus anglais. Alors, il faut faire quelque chose. Là. Si on ne fait rien, là, à un moment donné, on va avoir des problèmes à s'affirmer. On en a déjà et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose au Québec pour affirmer le fait français. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Ben, c'est à nous
Et
autres de tenir nos culottes, Maître Bellemare, tu sais, puis
on a de la misère. On a de la
ouais,
misère avec ça. On
mais
a de la misère à trouver le moyen, mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose parce que le français, manifestement, n'est pas très attrayant pour les nouveaux arrivants.
La séparation du Canada, tu sais, on est pas mal plus fort dans un Canada uni que de se séparer puis être juste notre gang. On n'aura pas les moyens de payer votre génération en CHSLD, Maître Bellemare, si on se sépare, là. Moi, je vous
Ben, c'est
annonce ça
sûr.
tout de suite. On n'aura pas cet argent-là. Les beaux gros paniers de services qu'on a en raison du fait qu'on prend le fameux pétrole sale de l'Alberta, puis qu'on transforme ça en argent, puis nous, on bénéficie de cet argent-là. On a un beau gros panier de services, mais ça va partir aussi. Vos fonds de pension vont devoir être convertis en argent québécois. Puis je peux vous dire qu'au départ, ça va fluctuer comme pas possible. Il n'y a pas personne qui va vouloir ça. À partir du moment où un économiste va commencer à jaser de ce qui pourrait arriver, c'est fini le rêve de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je suis un nationaliste. J'aime mon Québec. J'aime la province de Québec. J'aime les gens. J'aime le fait français. Mais à un moment donné, faut admettre qu'on n'est pas dans une situation de pouvoir, tu sais. Puis quand on va se séparer, ça va être encore pire. On va être Haïti. Ça va être ça. Ça va ressembler à Haïti. On va se laisser crever alors qu'on dort sur des litres et des litres de pétrole parce qu'on juge que le pétrole, ben c'est, on peut plus exploiter ça parce que c'est mauvais pour l'environnement. Alors que partout sur la Terre, on vire encore au pétrole. Nous autres, on va se laisser crever. Je trouve que c'est une très mauvaise stratégie actuellement de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il en profite parce qu'il est devant dans les sondages, mais j'ai l'impression, à la ligne d'arrivée, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas une si grande avance que ça. Puis la personne qui sera choisie pour remplacer François Legault, elle a de fortes chances d'augmenter aussi la popularité de la coalition Avenir Québec lorsqu'elle sera mise en place. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon va tout simplement perdre des plumes avec son histoire de souveraineté dans le premier mandat. Surtout s'il n'est pas capable de nous expliquer ce serait quoi un Québec souverain, puis est-ce que ce serait viable économiquement. Parce que juste
Mais
sur le français, on n'avancera pas.
il y a quand même 36 % des électeurs qui sont souverainistes, là. C'est quand même beaucoup. Je comprends que, tu sais, c'est pas 50, là, mais quand tu regardes ça, c'est plus qu'un électeur sur trois au Québec qui est favorable à la
Oui,
souveraineté.
mais à partir du moment où tu leur
Alors, c'est
annonces,
pas mal de
oui,
monde, là.
mais à partir du moment où on annonce à ces gens-là qu'ils vont perdre énormément, puis voici ce qu'ils vont perdre, pas sûr que ça reste à 36. D'après moi, ça va juste continuer à diminuer. Mais cela dit, ça se passait en fin de semaine, rassemblement du Parti québécois. On a parlé de souveraineté, on a parlé de séparation du Québec, on a parlé du troisième lien où on a complètement fermé la porte. Je trouve ça particulier. On a parlé d'habitation, ça c'est le positif, là. Permettre certaines modifications d'ordre provincial, mais aussi municipal, ça prend de la place pour loger notre monde, là. Ça prend des logements.
Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec la Caisse de dépôt, toi, qui es un fin observateur de la scène politique et de l'actualité? La Caisse de dépôt, ça s'en vient. Là, on nous a promis, je pense, un résultat de l'analyse du troisième lien pour le mois de juin,
Mois
mais
de
là, on
juin.
est quand même en avril, c'est dans à peu près 2 mois. Qu'est-ce que tu penses qui va accoucher de cette étude-là?
Ben moi, je pense que ça va être un tramway, qu'on va peut-être changer le nom pour pas faire perdre la face à la coalition Avenir Québec, mais il va y avoir un tramway, puis il va y avoir un troisième lien. Ce qui va rester à déterminer, c'est est-ce qu'on va faire passer les camions sur ce troisième lien-là? Parce qu'actuellement, on a juste le pont Pierre-Laporte où les camions peuvent passer. Le pont de Québec, les camions peuvent pas passer là. Puis le troisième lien, on a fait l'erreur au départ de l'appeler troisième lien. On aurait dû l'appeler le pont de remplacement ou le deuxième pont à long terme. Là, on l'appelle le troisième lien, ce qui laisse en mémoire aux Montréalais, ce qui est à dire la moitié du Québec, qu'à Québec, on a plus que deux ponts, alors qu'on en a un qui est à toute fin de vie utile, pratiquement terminé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous pondre, mais moi, je suis pas mal persuadé que ça va être un troisième lien avec un tramway qui va passer dessus, là.
Moi, c'est ça, parce que même le PQ, ce qu'il disait, c'est que ben, Saint-Pierre Plamondon avait dit la semaine passée, je crois bien, qu'il y aurait peut-être un autoroutier, là, il y aurait peut-être des véhicules automobiles qui circuleraient sur le troisième lien éventuel.
Là, ils ont fermé la porte en fin de semaine.
Ils
C'est
ont fermé
fini.
la
Ouais.
porte, mais ils ont quand même maintenu le troisième lien, mais qui serait pour le transport collectif seulement. Mais tu sais, si tu construis moi, j'ai de la misère à accepter ce projet-là, parce que je me dis, si tu construis un troisième lien, tant qu'à faire, fallait comme il faut. Fallait pour le transport en commun, fallait pour le transport routier aussi,
Exact. Parce qu'il n'y a
pour
pas
les
d'autre
deux, parce que
alternative.
là, éliminer complètement les véhicules moteurs sur un troisième lien, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde va voyager en tramway puis en véhicule collectif?
Ben non, eux les
Faudrait laisser une
premiers.
place.
Non, Paradis, là, il s'est rendu comment à Drummondville, vous pensez? Pensez-vous qu'il s'est rendu là en transport en commun? Ben non, il a pris sa voiture, puis il est allé. Puis, savez-vous quoi? Il a probablement passé par le pont Pierre-Laporte. Mais ces gens-là vont continuer à vivre leur vie comme ils vivaient avant. C'est juste qu'eux autres, ils vont nous imposer d'embarquer dans les autobus, d'embarquer dans le tramway. Ces gens-là, ils bâtissent pas la société pour eux autres, ils bâtissent la société pour nous autres. Eux autres vont rester dans leur petit confort, puis ça va bien aller, là. Ça va bien aller, mais je le répète, à chaque fois qu'il y a un politicien, Maître Bellemare, qui se présente sur les ondes de boulevard, je demande tout le temps, advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte pendant quelques jours, c'est quoi l'alternative pour les camions? Maître Bellemare, ils ne le savent même pas. L'alternative, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières qui est fini aussi. Parce que sinon, le pont de Québec, les camions peuvent pas passer là. Ce serait dramatique pour la région de Québec. Et là, les policiers, le jour où ça arrivera, le jour où le pont Pierre-Laporte sera fermé pendant quelques jours, quelques semaines, les policiers vont dire, ouais, on aurait peut-être dû avoir un troisième lien avec des possibilités de faire passer les camions là, hein, parce que là, on est dans le trouble un peu, faut passer par Trois-Rivières. Sacrifice, on n'est pas Cuba, là. On n'est pas le Cuba du Nord. On mérite un troisième lien à la hauteur de la grande ville qu'on est actuellement, de la grande région, du moins. On est la capitale nationale, mais on a un aéroport international qui n'en est pas une. On n'a même pas de club de la Ligue nationale de hockey. Puis on a un pont pour faire passer les camions. Sinon, l'autre, on ne sait pas trop si les trains vont passer là-dessus pendant une couple d'années encore. On ne sait pas trop si on va pouvoir faire passer les vélos. Ah non, c'est gênant ce qu'on a là actuellement. Puis de voir que Paradis, qui emmène très large au Parti québécois, se permet de dire non, troisième lien, ça va être uniquement du transport en commun. J'aimerais que la réalité le rattrape, lui. Prochaines élections, j'aimerais qu'il ait peur de perdre sa job parce que c'est pas vrai que c'est lui qui va décider. C'est à la population de Québec de décider. C'est pas vrai que c'est lui qui va décider.
Oui, tu as bien raison. Alors, on va s'espérer un troisième lien qui va être multi-transport, si tu veux. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Mais penses-tu vraiment que la Caisse de dépôt est complètement déconnectée de la CAQ? Parce que notre ami Drainville, il avait l'air à savoir la semaine passée que ça allait être de telle ou telle manière. Mais on dirait qu'il y avait des contacts avec la Caisse de dépôt. Moi, je suis convaincu que c'était liquidé, cette affaire-là.
Ouais,
C'est Legault qui
ben.
dit. Tu sais bien que Legault n'est pas en dehors de ça. C'est bien trop important, ce dossier-là. Puis il a tellement perdu la face après l'élection dans Jean Talon. Tu sais bien que Legault va mettre ses gros doigts dans le dossier pour dire, écoutez, on va faire ça, on va faire ça. Puis
Mais
on a
non.
tant d'argent, arrangez-nous ça. Là. Tu sais bien qu'il y a un cadre qui a été imposé à la Caisse de dépôt.
Mais normalement, elle devrait être indépendante, là, mais je suis un peu d'accord avec vous. C'est clair et net qu'il y a des messages qui se sont passés. Mais quand j'ai demandé, moi, des ingénieurs, ben, un ingénieur, en fait, de Transport Québec, puis un ancien ingénieur de Transport Québec qui travaille pour une entreprise privée, toi, le troisième lien, tu mettrais ça où? Ils m'ont tous dit, ce serait exactement à la même place que les deux autres. Et quand je leur ai
Ouais.
demandé leur avis pour ce qui est du meilleur moyen de transport pour la ville de Québec, pour ce qui est du transport en commun, les deux m'ont dit le tramway. Puis c'est ce qui avait été recommandé par la plupart des ingénieurs qui travaillent aujourd'hui pour la Caisse de dépôt et de placement. Donc, pourquoi ils en viendraient à des résultats différents avec les mêmes données? C'est les mêmes données qu'il y avait. Il n'y a pas de données qui ont été ramassées en supplémentaire. C'est les données qu'il y avait leur permettait de dire ça prenait un tramway. Puis là, ben, il y en a un certain là-dedans qui travaille pour la Caisse de dépôt et de placement. Ils ne peuvent pas dire, hey, on va choisir un autre mode que le tramway. Moi, je pense qu'on va
Ben
jouer un peu sur le nom. On ne l'appellera pas tramway pour ne pas faire mal paraître la coalition Avenir Québec. On va l'appeler un autre nom. Mais je suis pas mal certain que ça va être ça. S'il y a un troisième lien, ça va être à côté des deux autres. Ils sont assez caves pour le faire. Puis le tramway, ben, c'est clair et net que ça va être annoncé, là.
oui, Legault ne peut pas laisser aller la Caisse de dépôt de même. Imagine-toi qu'ils arrivent et ils disent on va faire un métro. Moi, j'ai toujours été partisan d'un métro souterrain à Québec. Admettons qu'il arrive et qu'il dise ça prend un métro à Québec, ça coûte 25 milliards, 20 milliards ou 15 milliards de dollars. Legault, il fait quoi avec ça? Il peut pas. Il faut qu'il soit capable de satisfaire aux conclusions de la Caisse de dépôt. Puis le troisième lien, imagine-toi qu'il arrive avec le projet qui avait été initialement présenté dans le temps de Bonnardel, les tuyaux, les gros tuyaux, là, avec transport en commun, puis les trucks, puis les chars, là, qui coûtaient je ne sais pas combien de milliards de dollars. Ça serait assez pour faire tomber le gouvernement. Imagine-toi qu'il arrive avec une conclusion que le gouvernement est pas capable de satisfaire. Legault pourrait laisser sa chemise. Il a tellement perdu de plumes dans la crédibilité. N'oublie pas que la crédibilité de la CAQ a commencé à tomber de façon sérieuse quand il a décidé de revenir avec le troisième lien. D'abord, quand il a décidé d'y renoncer, où là, le PQ a été élu avec quoi, 10 000 voix de majorité dans Jean Talon. C'est un record inimaginable. Puis après ça, il revient avec le troisième lien, mais il a perdu beaucoup de crédibilité. Dans la tête des Québécois, dans notre imaginaire, l'incertitude, la valse hésitation de Legault est beaucoup, beaucoup en lien avec le dossier du troisième lien.
Ouais.
Ça a été le début, puis c'est encore aujourd'hui, ça colle, là. Fait
Ouais.
qu'imagine-toi, si tu en rajoutes une couche, là, il va baisser à 5 %,
Mais ils se sont fait mettre dehors de Jean Talon parce qu'il nous avait promis un troisième lien avant de
Ben
le
oui, je le
laisser
sais.
tomber. T'sais,
Bien sûr.
il y a tout ça. Ça dépend comment on revient ça de bord, là. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment les citoyens de Jean Talon ont dit, ben regarde, dans notre secteur, le troisième lien, c'est plus ou moins important, mais la coalition Avenir Québec avait promis un troisième lien, puis ils l'ont enlevé. Donc, ils ont décidé de faire payer la coalition Avenir Québec puis de mettre le PQ à la place. Puis là, Paradis, il pense que là, il va être là pour les prochaines années. J'ai des petites nouvelles pour lui. D'après moi, il doit avoir un peu plus le vent d'en face aux prochaines élections. Mais on peut pas aller en élection dire voici nos promesses, puis une fois rendu au pouvoir, dire bon, ben là, on va commencer. On vous devait de l'argent. Hydro-Québec vous devait de l'argent. Je pense que c'était plus qu'un milliard. On était dans l'opposition. On traitait le gouvernement qui était en place de crosseur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet argent-là, puis on va vous donner juste la moitié. Puis après ça, ben on vous a promis aussi le troisième lien, hein, mais on va l'enlever. On n'a pas. On va vous présenter d'autres choses là, pour ce qui est du troisième lien. Là. Ce qu'on vous avait promis, ce ne sera pas ça. Ces techniques-là, ça ne fonctionnera plus, Maître Bellemare. Les gens commencent à avoir de la mémoire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Avant, les gens n'avaient plus de mémoire. Là, on se souvient de ce qu'ils disent. Puis, rendu à mi-mandat, on se souvient si les promesses ont été respectées ou s'ils sont en voie d'être respectées. La bombe s'est faite mettre au pouvoir en mentant pendant les élections. Marchand a fait la même maudite affaire. Là, je pense qu'à Québec, nous autres, il est temps qu'on passe à d'autres choses. Les citoyens, les politiciens qui nous font des promesses doivent les respecter. Sinon, c'est dehors. Puis moi, j'aimerais que ce soit comme ça pour les prochaines années. Vous dites de quoi pour être élu? Respectez-le, sacrifice.
Oui, exactement. T'as raison. Alors là, moi, j'ai hâte que tu sois candidat, là, tabarnouche.
Ah non,
je vais travailler pour toi.
J'ai pas ce tempérament-là, Maître Bellemare. Je vous l'ai dit, c'est moi qui vais travailler
pour
vous.
Faut jamais dire jamais, je ne boirai de cette eau.
Ah non, je vais tenir. C'est moi qui vais tenir la lumière pour vous. Je vais dire, regardez, Maître Bellemare, on a fait des promesses sur telle affaire. Il faut les réaliser dans les deux prochaines années. Sinon, moi, je m'en vais.
Hey Yannick, moi, quand j'avais 40 ans, là, c'est les avocats qui étaient en politique.
Ouais.
Les avocats, les anciens avocats, tu sais, Bourassa, Jean Lesage, c'était les avocats dans le temps qui étaient en politique. Mais Bourassa, je ne sais pas s'il était avocat, mais il avait été chez qui avait fait des études en droit. Mais à un moment donné, ça a viré journaliste. Ça a été René Lévesque qui a été un des premiers journalistes à se présenter, d'ailleurs, à occuper des hautes fonctions. Puis là, ben, t'as des Drainville, t'as des Derry, t'as des Biron. Il y en a beaucoup de journalistes. On dirait que, tu sais, Pierre Duchesne aussi, qui a été candidat pour le Parti québécois, qui a été élu, je pense, dans Bordeaux avant Jolin Barrette. Il y en a beaucoup de journalistes parce que, je sais pas, il y a comme du fait d'être connu, de parler à la radio, à la télévision, d'avoir un auditoire. On dirait que ça donne une crédibilité, une notoriété qui donne plus facilement accès à la politique que quelqu'un qui n'est pas connu partout. Alors, il faut faire attention aux fontaines, je ne boirai jamais de cette eau. C'est pas ça. On s'en parlera dans 20 ans. Peut-être qu'à un moment
Bon.
donné, tu vas avoir un appel, puis ils vont dire, Hey, M. Marceau, présentez-vous pour notre parti, on va vous donner un ministère, tabarnouche.
Non, Maître Bellemare, je ne vais pas
Donc,
vous décevoir, mais ça arrivera jamais, la
tu dis non
politique.
à jamais, là. Tu me promets ça.
Je dis non à jamais. Je dis non à jamais. Mais je vous le dis,
OK.
le jour où vous allez retourner en politique, je vais être derrière vous. Je vais être
OK.
votre plus fervent militant. Je vais être
D'abord, parfait. J'ai
votre
noté ça. J'ai
écuyer.
coché.
Vous allez être mon chevalier, je vais être votre écuyer. Ouais.
OK.
Est-ce que, lorsque vous étiez en politique, là, les sondages, là, bon, les politiciens ont beau dire on ne regarde pas les sondages, à un moment donné, vous deviez en tenir compte quand même, là. C'est quand même vos jobs qui sont en jeu, là.
Ouais, bon, oui. Ben, les sondages, je veux dire, ça rentrait surtout dans le bureau du chef. Nous autres, on était informés beaucoup de ce que les journalistes disaient de nous parce que, tu sais, qu'à Noël, par exemple, il y a Michel David qui fait son espèce de petit bulletin, il donne une cote à chacun des. Il y a Rémi Nadeau aussi qui fait ça, je pense, au Journal de Québec. Alors, ça, on en est informé. On s'en parlait entre nous, puis on le savait. Mais les sondages d'opinion, on savait que les sondages étaient bons ou pas bons. On n'avait pas nécessairement besoin des sondeurs pour le savoir. On se le faisait dire assez rapidement dans le comté, où on était. Mais les sondages électoraux, par exemple, c'est important. Et moi, quand j'ai été candidat, c'était en janvier 2003, quand j'ai annoncé ma candidature. C'était le 27 janvier 2003. Charest était là, puis il annonçait ma candidature dans le comté de Vanier. À ce moment-là, on traînait de 17 points dans le vote francophone par rapport au Parti québécois de Bernard Landry. Et j'ai toujours été convaincu que ça avait été là un élément qui avait bien plu à Charest parce que il allait chercher un candidat connu. Et il est en retard d'un sondage. Fait que ça, là, parce que quand les sondages sont très bons, il y a bien du monde qui va être candidat. Mais quand les sondages sont moins bons, il y a moins de monde qui va être candidat. C'est des gens convaincus qui vont l'être. Et ça, il avait beaucoup apprécié. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait que je me suis retrouvé au Conseil des ministres au mois d'avril suivant, 2003.
Ah oui.
Oui. Mais pour répondre à ta question sur la question des sondages, il n'y a pas de. En tout cas, quand j'étais là, moi, il n'y avait pas de distribution systématique des sondages. On nous conseillait même de ne pas trop écouter les nouvelles parce que des fois, ça peut devenir, tu sais, on peut ou bien être porté à avoir un comportement qui va être axé sur la nouvelle en question, tu sais, s'ils te disent de faire ci, de faire ça, tu vas peut-être être porté téléguidé, ou bien des fois, ça peut avoir un effet démoralisateur important aussi, quand tu te fais rentrer dedans. Puis, tu sais, les chroniqueurs, là, tu le sais, Yannick, là, tu sais, les chroniqueurs, t'es pas là, t'es là pour voir les bébites, t'es là pour voir les choses, les erreurs, etc. On est plus porté à regarder les erreurs du gouvernement qu'à regarder les bons coups. Ça, c'est rare qu'on va dire, Ah, oh, hey, excellente loi, excellente idée. Il y en a de ça, mais si tu fais une erreur en politique, ça risque de faire le tour des médias assez rapidement. Puis c'est sûr que pour un politicien qui écoute des émissions comme ça tous les jours, là, à un moment donné, il va se dire, je m'en vais, moi, là, je m'en vais ailleurs. Pour ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui qui sont intéressés à la politique, parce qu'ils veulent justement pas être critiqués. Comprends-tu? Ils n'ont pas à quoi de ben ben dur. Les maires qui démissionnent, oui, je comprends que c'est difficile. Les réseaux sociaux, c'est une donnée importante. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y en a. Puis les gens sont menaçants, puis les gens sont, bon, il y a des... faut composer avec ça, surtout pour les femmes. Mais il reste que la meilleure façon d'avoir la couenne dure, c'est peut-être de pas trop être perméable aux critiques qui viennent de l'espace public, puis d'écouter ce que les gens disent, tes proches, puis
Je comprends tout
c'est
ça,
comme
mais
ça que tu vas réussir à te maintenir en politique.
je pense que les politiciens devraient plus voir leur travail comme étant un travail de gestionnaire, donc de gérer quelque chose, puis tenter d'améliorer les choses, plutôt qu'un travail comme j'ai mes propres idées dont je vous ai pas toujours fait part, puis je vais faire passer mes propres idées avant les besoins des citoyens, et où je vais faire passer mes idées parce que je considère que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour comprendre ce qu'il y a de mieux pour vous autres. Tu sais, moi, la technique des maires de Québec là, qui sont passés au courant des dernières années, la bombe puis Marchand, je veux dire, ces gens-là, au niveau personnel, je me serais jamais entendu avec ces gens-là. C'est pas vrai qu'il y a juste une personne qui peut avoir raison dans la ville. C'est pas vrai qu'on le met en place, puis pendant 4 ans, tu peux prendre ce qu'on t'a donné, puis faire ce que tu veux avec. Il faut quand même respecter tes citoyens. Puis de voir que Marchand est rendu environnement à côté. Là, en fin de semaine, je sais pas si vous avez vu les médias de Québécois, mais on a envoyé un correspondant de Québec en mission spéciale à Séoul pour dire à quel point les moyens de transport en Corée du Sud, c'est incroyable. On regarde le climat de la Corée du Sud, de Maître Bellemare, ça donne que c'est pas le même climat que nous autres. Après ça, on regarde la population en Corée du Sud, sont au-dessus de 50 millions. On est 9 millions à la grandeur de la province qu'on a. Puis les petites villes comme on a nous autres à Québec, c'est autour de 7, 8, 900 000 quand on étire ça un peu plus en prenant les environs. Puis on nous dit que le maire Marchand prend Séoul en exemple pour dire à quel point hey, c'est donc ben le fun, des trains ultra haute vitesse, des hélicoptères qui servent de taxi et tout ça. Pensez-vous qu'on va voir ça à Québec, des hélicoptères qui vont servir de taxi l'hiver quand il fait moins 40 avec soit 60-70% de le vent de travers qu'on peut avoir ici? C'est impossible. Plutôt que de prendre des villes américaines, allez voir à Boston ce qui se fait bien pour ce qui est du transport en commun. Allez voir à New York ce qui se fait bien pour le transport en commun. Puis essayer de ramener ça chez nous, les bons coups qu'ils ont faits. Ben, on s'en va à Séoul pour aller chercher des idées novateurs pour être sûr et certain que on va en parler ici, puis ça ne donnera jamais rien. Puis t'as le maire Marchand qui
Ouais.
embarque là-dedans en disant j'en vis beaucoup Séoul. Ben, si t'en vis Séoul, prends tes clics, tes claques, puis deviens maire là-bas. Tu peux pas prendre ce qu'il y a là-bas puis amener ça ici. C'est impossible. On n'est pas 50 millions au Québec versus la Corée du Sud. Puis la démographie n'est pas pareille.
Non, c'est sûr. On va commencer par faire de quoi avec notre transport en commun en Québec, parce que c'est tellement difficile d'aboutir avec un projet. Écoute, ça fait 20, 25 ans qu'on en parle, on n'a pas
Mais
capable d'aboutir.
les gens qui décident de notre transport en commun, c'est des gens qui le prennent même pas, Maître Bellemare. Hein?
Bien sûr, c'est
Donc,
sûr.
t'sais, moi, quelqu'un qui dit, ouais, j'ai la meilleure idée pour vous autres, mais j'embarquerai jamais dans la meilleure idée que j'ai pour vous autres. Moi, je m'éloigne de ces gens-là. Maître Bellemare, on a plein de sujets à jaser. Vous vouliez nous parler d'un petit lexique, là, des relations de travail, parce qu'au travail, les mots n'ont pas toujours le même sens ni les mêmes conséquences.
Oui, c'est d'abord, écoute, un congédiement, là, je voulais en parler parce que c'est important de le voir. Il y a bien des façons de remédier à ça. D'abord, c'est une convention collective, ça va être par un grief, tous les syndiqués le savent. Si tu n'as pas de convention collective, puis que tu as 2 ans de service continu, à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir affaire à la CNESST, qui est l'ancienne commission des normes, finalement, qui peut ordonner la réintégration d'un salarié qui a été injustement congédié, ou bien si tu as été congédié parce que tu as exercé un droit en vertu de la loi sur les accidents de travail, tu peux contester aussi parce que c'est formellement interdit. été congédié pour des raisons qui ont lien avec ton orientation sexuelle ou un lien avec ta religion, tu peux également obtenir une réintégration. Mais je te dirais que dans tous les cas, là, même si tu as des recours contre un congédiement, il n'y a pas un tribunal qui va être obligé d'ordonner la réintégration, à moins que tu fasses la preuve que tu as été injustement congédié. Parce que si le patron prouve que tu n'es pas bon, puis si le patron trouve que tu n'es pas poli, puis que tu arrives tout le temps en retard, puis que tu n'es pas bon dans ce que tu fais des erreurs, ou que tu as volé ou que tu as fraudé, bien, il va te mettre dehors, il a le droit. Alors, on oublie souvent ça, puis il y a des gens qui pensent, parce qu'il y a des lois qui protègent contre le harcèlement, puis contre les abus des employeurs, que les congédiements sont impossibles. Il y a quotidiennement des jugements de cour qui justifient le congédiement et qu'ils considèrent sérieux, qu'ils considèrent utile et fondé. Alors, ce n'est pas parce que tu penses que tu as été congédié pour la mauvaise raison que nécessairement tu vas obtenir une réintégration. Et le 2 ans de service continu, ben c'est important aussi à considérer parce que si ça fait juste 3 mois que tu es pour le même employeur, puis qu'il te congédie, ben là, tu ne peux pas avoir recours à la mécanique de la loi sur les normes du travail, à la CNESST. Fait qu'il va falloir que tu trouves un autre argument. Parce qu'en dehors, en bas de 2 ans, tu n'as aucun recours contre tes congédiements, à moins d'aller dans un recours civil en vertu du Code civil, ce qui n'est pas évident non plus. Et là, tu as toute une preuve à faire pour justifier ta réintégration parce que le juge va considérer aussi ce qu'on appelle le droit de gérance, c'est-à-dire le droit de l'employeur de gérer sa patente comme il voulait. C'est sûr qu'il y a 50 ans, les employeurs faisaient ce qu'ils voulaient, ils pouvaient congédier une personne qui était là depuis 25 ans, 30 ans, sans aucune raison, sans aucune explication. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des avocats qui se spécialisent dans ce genre de causes-là.
OK.
Si tu veux te débarrasser, entre guillemets, de quelqu'un qui travaille pour toi, ben, il y a des avocats patronaux qui se spécialisent là-dedans puis qui vont essayer de trouver des espèces de patentes, des espèces de moyens pour faire en sorte que la personne puisse être congédiée sans contrepartie ou
Mais
sans
pour
conséquence.
les dossiers d'incompétence, c'est-tu encore des avertissements? Je pense qu'il y a c'était trois
Ben
avertissements, puis
oui,
la personne
on appelle ça
pouvait.
la gradation des peines. C'est-à-dire
Gradation,
que
ouais.
c'est sûr que si c'est un vol, là, il n'y a pas de gradation. OK, ça peut être du vol de temps. On a parlé dans une chronique récente. Ça, c'est
Ouais.
quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, sur son cellulaire, puis qui est officiellement au bureau, mais qui passe son temps à échanger, puis à faire des. Ça veut pas. Tu peux faire une chose, de temps en temps, tu peux parler à ta blonde au téléphone 3 minutes pour dire, bon, OK, on se rejoint à telle place, tout ça. Mais c'est si tu passes des heures au travail, payé par le boss pour faire des activités personnelles, si tu as une business en dehors de ton emploi principal, tu es tout le temps sur ce business-là, puis tu passes des heures là-dessus, puis qui s'en aperçoit parce qu'il y a des moyens de vérifier tout ça. À ce moment-là, c'est du vol de temps. Alors, voler du temps, c'est quasiment pire que de voler une pile de papier ou de voler un stylo ou de voler un ordinateur ou de voler un équipement de travail. Alors, le vol, ça donne pas beaucoup de chances de réussir. Et souvent, il n'y aura pas de gradation. Dans un cas comme ça, dans un cas de fraude encore moins, ben le vol est plus facile à prouver que la fraude. La fraude, ben là, c'est prendre de l'argent, puis envoyer ça ailleurs, ou manigancer des factures, faire des choses comme ça. Mais voler, c'est vraiment s'approprier la propriété d'autrui, la propriété du patron. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas nécessairement de nécessité de faire la gradation. Mais il y a une gradation qui est nécessaire si, par exemple, c'est une question de compétences ou d'erreurs ou des imperfections, des erreurs de bonne foi, tu sais. L'employé qui est distrait puis qui prend des informations dans des dossiers qui sont erronés puis qui provoquent une perte de temps, etc., bien là, il faut que tu lui donnes l'occasion de s'amender. Il faut que tu lui permettes, par exemple, de suivre un cours en comptabilité ou un cours de français, ça fait des fautes de français, mais tu sais, il faut que tu lui donnes la possibilité d'améliorer son défaut ou de se débarrasser de son défaut. Et c'est à ce moment-là que le tribunal va considérer ça comme étant la gradation des sanctions. Donc, l'employeur doit donner raisonnablement au travailleur qui a des défauts la possibilité de modifier sa condition. Ça s'applique aussi dans le domaine médical. Quelqu'un qui est parti pendant une période de temps pour un problème de santé, peut-être une réintégration dans son emploi avec une réintégration progressive. Qui va respecter son état de santé. Tout ça, bien sûr, dans la mesure où il y a au moins 2 ans de service continu, parce que si tu n'as pas 2 ans de service continu, ça devient extrêmement difficile d'obtenir une réintégration. Il y a aussi des indemnités de préavis ou de cessation d'emploi si tu es obligé de donner quand même un préavis. Mais si tu n'as pas au moins 3 mois d'ancienneté, tu n'auras pas de droit à un préavis. Mais si tu as au moins 3 mois d'ancienneté, tu vas avoir un préavis. Et le maximum, ça peut être, par exemple, de 8 semaines pour une personne qui a 10 ans et plus d'ancienneté. Mais je te dirais que de façon générale, là, si je peux donner un conseil aux employeurs, même si je défends les travailleurs essentiellement depuis 45 ans, essayez de trouver un compromis. Moi, je connais beaucoup d'employés qui ont contesté des congédiements parce qu'ils ont été insultés. Ça fait 23 ans que je donne mon temps à cet employeur-là. J'ai monté sa business, j'ai développé tel ou tel marché. Et là, il se débarrasse de moi, puis il m'envoie une lettre, me dire qu'il me met dehors parce qu'il n'est pas content de mon rendement ou quoi que ce soit. Si le boss est capable d'étaler quelques piastres, là, hein, ça s'achète un départ de la part d'un employé. Si tu lui donnes un an ou un an et demi de préavis, puis tu lui donnes un montant global intéressant, à ce moment-là, la personne va être beaucoup plus portée à quitter et à trouver un autre emploi, surtout dans un monde de plein emploi comme celui dans lequel on vit actuellement.
Mais
Mais
un
très
an et
souvent, il y
demi,
a de la maladresse, hein?
ouais.
Les gens sont insultés. Puis si tu piques quelqu'un et que le gars se sent insulté quand on essaie de se débarrasser de lui, là, tu es parti pour avoir des problèmes parce que les procédures risquent d'être longues.
Mais vous dites un an et demi de préavis.
8 semaines.
OK, 8 semaines de
Huit semaines
préavis.
pour une personne, une période d'emploi de 10 ans ou plus. Mais ce que je te dis, c'est que si, par exemple, tu veux te défaire d'une personne qui est chez vous depuis 23 ans, puis que tes motifs sont plus ou moins bons, tu sais, tu trouves que la personne est vieillissante, tu as le goût d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus dans le numérique, un peu plus jeune, etc., il n'y a rien qui t'empêche de donner un an et demi de salaire, là. Un an et demi de salaire, si la personne gagne 60 000 par année, ça veut dire 90 000, là, tu sais. Tu vas pouvoir le déduire de tes revenus parce que tu es un employeur, tu es une entreprise, là. Mais souvent, si le pire melting pot, là, c'est l'insulte, le mépris et une indemnité proposée qui est insuffisante. Mais des fois, le patron va dire, on va lui proposer 6 mois, puis on va voir ce qu'il va dire. C'est mieux de lui donner un montant appréciable. Si tu lui donnes un montant appréciable, une personne qui a un an et demi de salaire payé d'avance et qui quitte un emploi va être capable de se relocaliser en quelque part, puis le départ va se faire de façon plus harmonieuse. Il va y avoir un consentement, il va y avoir une acceptation de la part de la personne qui quitte, et il n'y aura pas de procédures qui vont durer des années,
Mais y
que tu risques de
a-tu...
perdre.
Mais je pensais que c'était contre la loi, moi, de mettre quelqu'un dehors en raison de son âge.
Non, 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 pas nécessairement. La question de l'âge, purement et simplement, non, c'est pas
Ah ouais.
la condition sociale. Il y a des motifs de discrimination qui sont interdits par la charte, mais si tu le négocies, si la personne est fonctionnelle, c'est pas une question d'âge. Si la personne est fonctionnelle puis qu'elle peut prouver qu'elle est encore capable de fournir une bonne prestation de travail, elle va être intégrée. Mais des congédiements basés sur l'âge seulement, moi, j'en ai jamais vu. J'ai vu des congédiements basés sur l'âge d'une personne qui était de moins en moins capable de faire avec le travail, qui était malade, qui n'était pas fonctionnel. Mais quand les gens ont un certain âge, même à 68, 70 ans, s'ils sont capables de faire la job, il n'y a personne qui va se débarrasser d'eux autres. Au contraire, on va les rechercher.
Ouais, on parlait de lexique tantôt, on parle de congédiement, de mise à pied, démission. Démission, c'est assez clair, là. Licencié, quelqu'un qui est licencié, c'est quoi la différence?
Le licenciement, c'est pour une réorganisation. Par exemple, ben, très souvent d'ailleurs, les congédiements, les employeurs vont essayer de faire passer ça pour un licenciement. Ils vont dire, on réorganise la boîte. C'est sûr que si tu as 3 employés, puis tu fais une réorganisation, puis il y a juste une personne qui est visée,
Ouais.
là, bon, c'est possible que tu fasses une réorganisation et que tu laisses aller un département ou un secteur particulier de ton entreprise. Tu fermes complètement le service. Mais souvent, le critère pour voir si c'est vraiment un licenciement ou un congédiement, c'est de voir est-ce que l'employeur va chercher à remplacer la personne. Parce que si l'employeur cherche à remplacer la personne, si l'employeur te dit il y a un licenciement, on ferme le département du débossage, puis qu'il ne ferme pas, puis qu'au bout de 3 mois, il cherche, tu vois une annonce dans le journal comme quoi il cherche un débosseur, parce qu'il continue ses activités, tu vas avoir une cause de congédiement.
OK.
Mais le licenciement, d'habitude, ça se fait dans des entreprises où il y a plusieurs personnes qui sont affectées. Parce que si tu ne fermes pas un département où il y a 25 personnes qui travaillent parce qu'il y en a un qui ne fait pas l'affaire. Alors, puis si la personne qui est visée par le supposé licenciement est isolée et que toutes les autres personnes demeurent en poste, ça fait drôle parce qu'on a l'impression que c'est une mesure qui est ciblée sur une personne à cause de caractéristiques personnelles de cette personne-là, notamment la compétence et le comportement. Alors, c'est pour ça qu'on parle de congédiement déguisé. Dans bien des cas, c'est le licenciement. Moi, j'ai eu beaucoup de cas dans ma pratique où les gens avaient été supposément licenciés, mais dans le fond, c'est un congédiement. On l'apprenait en cours d'audience des fois. Quand ça fait une semaine que tu es en cours, à un moment donné, il y a un témoin qui vient dire « Wow, wow, c'est parce qu'il n'est pas bon qu'on s'en est débarrassé, tu sais. » Alors là, tu viens d'avoir une preuve de congédiement et non pas de licenciement. Le licenciement, c'est possible. C'est toujours l'argument, de toute façon. Parce que si tu peux convaincre, quand les gens contestent un congédiement en disant il n'y a pas de cause juste et suffisante, la cause, c'est la plupart du temps un licenciement. La plupart du temps, l'employeur va arriver pour dire on n'a rien contre ce gars-là, c'est un bon gars, il est très bon, il a même fait une lettre de recommandation. On a dit qu'il était bon parce qu'on veut qu'il se relocalise ailleurs. Alors, non, non, on n'en veut pas à cet individu-là, c'est juste qu'on réorganise notre entreprise, mais à ce moment-là, il faut que l'employeur fasse la preuve du licenciement. Il faut qu'il fasse la preuve qu'il réorganise ses affaires. Fait que là, il fait témoigner des comptables, puis des gens qui sont spécialisés dans la restructuration d'entreprise. Puis il dit, ben, on a décidé d'abandonner tel marché, puis de développer tel autre marché, puis d'engager tel type d'employés. Puis monsieur, il ne fit pas dans la réorganisation. Mais c'est l'employeur qui doit, dans tous les cas, faire la preuve que c'est véritablement une réorganisation administrative et que ça constitue un licenciement, auquel cas il n'y aura pas de réintégration, bien sûr.
OK. Puis pour ce qui est de la mise à pied, ça, c'est vraiment là, définitif.
La mise à pied, c'est un autre concept. C'est un concept qui est associé à une suspension ou une mise de côté temporaire du contrat de travail.
Donc, alors, mise à pied, c'est pas définitif.
C'est pas définitif, okay. Mais encore là, il y a des employeurs, des fins finaux, qui vont dire « Ah, on va te rappeler, tu sais, on te met à pied. Ah, oh, tu viens de tomber enceinte? Oh mon Dieu! On a moins d'ouvrage. Prends soin de ta santé. Prends donc 3-4 jours de plus, puis regarde, on va te donner un petit break, là. On va te donner 3-4 semaines, puis après ça, on va te rappeler. » Puis le téléphone, ça donne qu'il ne ressonne plus, tu sais. Puis des fois, ça fait 3-4 mois, puis la personne s'aperçoit finalement que c'est plus un congédiement qu'une mise à pied. Alors, il y a toutes sortes de fins finaux. Il faut toujours faire attention. C'est rare les employeurs qui vont vraiment affronter puis qui vont dire « Hey, je te congédie parce que t'es pas bon. » À moins d'avoir une cause béton comme un vol ou une fraude, là. C'est rare l'employeur qui va dire « T'es pas bon, je veux plus t'avoir. » Fait qu'on va essayer de passer par le licenciement ou par la mise à pied. Mais dans bien des cas, ça va se retrouver avec des contestations devant le tribunal.
Parfait. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Après la pause, vous nous apprenez à faire, à déshériter nos enfants. C'est bien ça?
Ouais. Ben, en tout cas, je ne t'apprends pas ça, mais je vais te dire qu'il y en a qui le font.
D'accord. Restez là. Je rappelle que ce soir, ben, bon lundi à tout le monde. C'est lundi. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNSST, bellemareavocat.ca, Bellemare Avocat au pluriel. Chaque lundi, on a le plaisir d'être en compagnie de Maître Marc Bellemare. Et là, je peux vous dire que le dernier sujet qu'on va aborder ce soir, ça peut être un sujet qui va toucher énormément de gens. Il s'agit des parents qui décident de déshériter leurs enfants.
Ouais, écoute, j'ai une petite devinette, mon Yannick.
Allez-y.
Il y a une recherche qui a été menée, c'est la presse de dimanche qui en parlait, une chercheuse qui s'appelle Hélène Bello, qui a permis de découvrir que il y a un pourcentage important de pères québécois entre 25 et 50 ans, c'est pas mal ton bac, ça. Des pères québécois de 25 à 50 ans qui se sont remariés, qui ne lèguent rien aux enfants nés de leur première union. Sais-tu que moi, ça m'a surpris, je pensais pas que ça existait.
Moi non plus.
Moi, je pensais que les pères léguaient quelque chose à tous leurs enfants indistinctement, que ce soit la première ou la deuxième union. Alors, quel est le pourcentage de pères de 25 à 50 ans au Québec qui se sont remariés, qui ont fait leur vie, qui ne lèguent rien, qui déshéritent carrément les enfants nés de leur première union, d'après toi?
10%.
30%.
Hé!
30% des pères québécois de 25 à 50 ans remariés ne lèguent rien aux enfants nés de leur première union. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. Sais-tu quoi? Mon interprétation, c'est que dans le cadre de ce premier divorce-là, de cette première séparation-là, ça s'est mal passé. Et j'imagine que la plupart des enfants qui ont été déshérités ont pris le camp de la mère. Ça se peut-tu?
Ben oui, mais au-delà de ça, le lien de sang est extrêmement fort, Maître Bellemare. Ça se peut qu'à un
Ben
moment
oui, je
donné, je me
sais.
chicane avec mes enfants, puis que mes enfants, ils m'en veulent tellement, qu'ils ne me parlent pas pendant des années, mais ça va quand même rester mes enfants, Maître Bellemare. Quand ben même que je serai en chicane avec eux ou en chicane avec leur mère, ça va quand même être mes enfants.
Ouais, c'est
On
ça.
a beau pas
Mais
vouloir être un. Ouais.
les femmes le font aussi, déshériter, mais dans une proportion de 12%. Alors, écoute, là, il faut revenir au Québec par rapport à Johnny Hallyday, qui est le fameux chanteur français qui est décédé en 2017. Et son histoire est assez particulière parce qu'évidemment, il était pas très pauvre, là. Johnny Hallyday, c'est un gars qui avait certainement des millions de dollars. C'est une grande vedette en France, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il a fait encore des concerts en 2016-2017 où il y avait des milliers de personnes. Moi, je l'ai vu au Théâtre Saint-Denis il y a à peu près 20 ans, puis je te dis que j'avais aimé ça.
Ouais.
C'est un phénomène. Moi, des phénomènes, j'aime ça, même si c'est des vieux phénomènes,
Mais c'était le
ces vieux
Elvis,
aussi-là, j'aime ça.
Presley de l'Europe, là.
Oh, c'est ça, c'est américanisé au bout, là, avec il y avait des espèces de longs pantalons en cuir bien
Ouais.
moulants, puis pas de bédaine, la face complètement refaite, là, je sais pas comment il y a eu de facing, mais en tout cas, il a dû passer une couple de millions là-dedans. En tout cas, son histoire est la suivante. 2017, il est décédé, et comme il vivait entre la France et les États-Unis, on ne savait pas trop si c'était la loi française ou la loi américaine qui s'appliquait, parce qu'il a décidé de déshériter deux de ses quatre enfants. Mais ça, aux États-Unis, tu as le droit de faire ça. Parce que c'est comme au Québec. Tu as ce qu'on appelle la liberté illimitée de tester. C'est-à-dire, tu as le droit de donner tes biens à qui tu veux, puis tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi. Alors que la loi française prévoit ce qu'on appelle une réserve testamentaire. C'est-à-dire que, en France, si tu meurs, tu es obligé de laisser, je pense que c'est 30 % de ton patrimoine à tes proches enfants. Comprends-tu? Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas déshériter tes propres enfants. Moi, je trouve que ça a plein de bon sens. Moi, je suis pour la liberté, là, mais à un moment donné, au Québec, on n'a pas ça, cette réserve testamentaire-là, ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont déshérités. Je trouve ça bien malheureux. Alors, ça ne veut pas dire de tout prévoir d'avance, comme dans un cas où tu meurs sans testament, auquel cas le Code civil prévoit comment c'est réparti,
Ouais.
mais qu'on prévoit 30 %, oh, c'est raisonnable. Ça veut dire que ça te donne une liberté de donner ton 70 % qui reste à un parti politique ou à la société canadienne de je sais pas quoi ou au Ballet de Québec ou à n'importe quoi. Alors, tu as le droit de donner tes biens à qui tu veux. Alors, finalement, le tribunal a tranché que c'était la loi française qui s'appliquait. Alors, notre ami a l'aidé. Qui a voulu déshériter deux de ses quatre enfants, a perdu sa cause post-mortem, et puis tout le monde va toucher quelque chose, incluant les enfants qui avaient été déshérités. Mais moi, j'en reviens pas. Je comprends qu'il peut servir des chicanes, mais comme tu disais, le lien du sang, mais le lien du sang, ça a l'air que c'est pas si fort que ça. Peut-être que dans le temps que le petit Jésus était un peu plus présent dans nos vies, ça marchait comme ça, puis que le lien du sang, ça comptait, là. Mais aujourd'hui, ça a l'air que c'est pas ça. Et moi, je connais personne qui a déshérité ses enfants. C'est sûr que tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu fais non plus. Hein?
Bon, je
Puis
pense pas
une fois que
que
tu es
c'est sûr
mort, ben, personne ne le sait parce que le
que
testament est secret, puis à moins que ça soit ébruité, comme elle l'aidait. Lui, c'est un gars connu, fait que ça a été ébruité. Mais normalement, il n'y a pas grand monde qui sait qu'un tel a déshérité ses enfants. Mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que c'est quand même un phénomène assez courant, surtout dans les nouvelles unions.
Parce qu'en tant que père, tu dois être au-delà de ça. Quand il y a des chicanes avec tes propres enfants, tu dois être le père, c'est-à-dire la personne qui, en bout de ligne, peu importe ce qui s'est passé, mais la personne qui va pardonner, qui va être capable de faire la part des choses. Tu sais, vous avez beau être en chicane pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, les enfants qu'on a vont toujours être nos enfants. Puis je sais pas, moi mes gars, je m'en ai occupé, là. J'ai changé les couches, j'ai eu du plaisir avec eux autres. On a fait des petits sommes ensemble, des roupillons, quand ils étaient bébés. Je peux pas croire que lorsque je vais être plus vieux, puis que je vais être en conflit avec mes enfants, si conflit il y a, je peux pas croire que je vais faire abstraction de tout l'amour que j'ai eu pour eux lorsqu'ils étaient bébés, parce qu'on pense pas pareil, ou parce qu'ils ont pris la part de la mère dans un dossier, ou parce qu'ils m'ont fait quelque chose que j'ai pas apprécié. T'sais, on essaie de pas juger. Dans des familles, il y a énormément de chicanes. Mais moi, avant ma mort, s'il y a bien quelque chose que je veux pas, c'est bien justement de garder des conflits avec mes enfants. Si je suis pas capable de leur parler, au moins ils vont voir que par mon testament, je pense encore à eux autres, maître Bellemare.
Oui, c'est ça. Mais écoute, il y a une question de gros bon sens là-dedans, mais la loi ne te permet pas de. Ne te permet, ne t'empêche pas de déshériter quelqu'un. Puis notre ami O.J. Simpson, là, qui doit 33 millions à la famille Goldman, là, ça a l'air qu'il y a des biens, peut-être, là. Il serait peut-être. Il y a des trophées qui avaient été gagnés par O.J. Simpson, là. On dit que des centaines de biens de valeur ont été saisis dans le cadre de la sentence du jury. Simpson a été contraint de vendre aux enchères son trophée Iceman, qui a rapporté 230 000 piastres. Mais là, il est mort, puis ça a l'air qu'il est plus riche mort que vivant. Il a toujours refusé de payer le 33 millions qu'il avait été acquitté au criminel, mais il avait été condamné au civil pour avoir
Civil.
tué Mme Brown et M. Goldman, son copain. Et puis là, ben, il va y avoir une chicane post-mortem, encore une fois, pour savoir si la famille aura accès à certains biens que O.J. Simpson aurait eu au moment de son décès. Alors moi, en tout cas, Antoine et moi, je leur souhaite d'aller chercher quelque chose, là, ne serait-ce que par principe, parce que, bon, écoute, s'il a été condamné à payer 33 millions, ça se peut-tu qu'il y ait eu une preuve de probabilité d'assassinat? Et moi, je suis convaincu qu'il les a tués, ces deux-là, là, puis que, bon, il a été acquitté parce qu'il y avait un contexte de racisme, là, puis de grosseur de gants, puis de ci, ça, tu te souviens du show épouvantable? En tout cas, épouvantable. Moi, je n'avais écouté une partie, fait que c'était pas si épouvantable que ça. Mais c'est tout un show, tellement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contre la télédiffusion des procès criminels à la télévision parce ils ont été traumatisés par l'affaire O.J. Simpson qui a viré en cirque, qui a discrédité le système judiciaire américain.
Mais ça, pourquoi
Mais moi,
ça
je
serait
pense que
pas
c'était
ça?
très instructif, au
Ouais.
contraire.
Pourquoi on pourrait pas avoir ça au Québec à un moment donné? C'est qu'on a peur que ça devienne une justice spectacle?
Mais il y a beaucoup de juges qui sont pas d'accord avec ça, hein. Puis je sais pas, ils ont peur d'être eux-mêmes jugés par un auditoire. Moi, j'ai toujours été favorable à ce que les procès soient publics, surtout les procès de nature criminelle, là. Les questions d'agression sexuelle,
Ben oui.
pour que le monde puisse être plus familier. Tu sais, Indéfendable, c'est une série qui est très très écoutée actuellement à la télé. Alors, les gens aiment ça, le système judiciaire, là. Des vrais procès, ce ne sera pas Perry Mason, là, mais ça va être des vrais procès authentiques avec des vrais avocats. À partir du moment où les avocats sont d'accord, les clients sont d'accord, tu sais, la justice, ça a toujours été fascinant, puis c'est de plus en plus populaire. Et il y a beaucoup d'avocats qui vont dire, moi, j'ai décidé de devenir avocat quand j'ai vu tel film ou quand j'ai vu telle émission parce que j'ai trouvé ça le fun, puis je me reconnaissais là-dedans, de me battre pour des idées, de me battre pour convaincre un juge que j'ai raison. Et que mon client a raison aussi. Oui, je suis pour ça, mais écoute, le système judiciaire, c'est très conservateur. Les juges, le barreau, très, très conservateur. Puis, mais je désespère pas qu'éventuellement, on puisse avoir accès à des procès publics, en tout cas, dans certaines cours, dans certaines juridictions.
On va se le souhaiter. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de vous voir œuvrer dans le merveilleux monde des
De la
procès, de la
justice.
justice, des
Non. Mais en tout cas, moi,
procès.
je vais dire oui à la télédiffusion dans mon cas.
Pour des dossiers de
Là, ils vont dire,
sac.
garde le kid Kodak,
Ben,
là, garde le kid Kodak.
c'est parce que vous êtes beau garçon. Tu sais, quand on est beau garçon, on peut se permettre tout,
Ah, absolument.
là.
Alors, pas de bédaine, des cheveux en masse.
C'est ça.
C'est un atout, c'est vrai, t'as raison.
Maître Bellemare pour des dossiers de SAC, DIVAC, de CNESST, bellemareavocat.ca.
Absolument, à votre
Avez-vous
service.
une grosse semaine?
Oui, une grosse semaine. C'est parti aujourd'hui, Saint-Hyacinthe, procès demain, procès mercredi.
Quand est-ce que
Puis
vous allez
vendredi,
arrêter, là?
les entrevues du matin au soir.
Quand est-ce que vous allez arrêter, là, jouer au golf avec vos amis en Floride, là? La grosse vie.
Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas donné un bâton de golf, incidemment. J'ai eu une vague de ça, mais là, peut-être ça va revenir un jour.
On vous le souhaite. Maître Bellemare, bonne soirée.
C'est beau, salut, bonne
Bye-bye.
semaine.
Merci, Maître Marc Bellemare, avec qui on est chaque lundi. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et j'aurai le plaisir de vous jaser demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye.